Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Bienvenue à vous tous. Avant de plonger dans une actualité guère réjouissante, je voudrais d'abord vous parler ce matin d'une opération inédite, d'une belle solidarité au cœur de cette crise sanitaire qui fait bien des dégâts. Ça concerne le secteur aérien, Arnaud Touche, et notamment les pilotes de nos avions cloués au sol. Racontez-nous.
Oui, et c'est une première pour le syndicat national des pilotes de ligne. En lien avec la direction, ils ont proposé aux pilotes d'Air France et de Transavia de pouvoir faire don de leur congé.
En ce moment, les pilotes sont en sous-activité. On est en chômage partiel et le don de congé est quelque chose d'assez facile à faire pour les pilotes.
Guillaume Schmid est le vice-président de la section Air France et au bout d'un mois de collecte, il se félicite du succès qui est au rendez-vous.
Il y a eu 832 participants exactement à cette cagnotte et ça représente environ, les calculs sont encore à faire, mais je pense qu'on va approcher du million d'euros et on en est très content.
Au total, 2282 journées de congés seront converties en euros, une générosité possible grâce à l'accord sur le chômage partiel de longue durée. Cette somme sera partagée parmi les pilotes qui en ont le plus besoin.
C'est plus que réconfortant.
Guillaume est en lien avec eux. Certains devaient intégrer la compagnie juste avant la crise et se retrouvent désormais au RSA. Alors cette aide est plus que la bienvenue.
C'est beaucoup d'argent. C'est une aide conséquente qui va servir à des gens qui n'ont strictement rien, pas d'aide pour le moment et qui sont donc dans l'attente du redémarrage du trafic pour tout le monde.
Le syndicat a confié la gestion de ces dons à une association qui sera chargée de les répartir parmi les pilotes les plus en difficulté.
Merci Arnaud. Voilà un bel exemple de générosité. La preuve que ça peut toucher tous les secteurs. Arnaud Touche du service éco de RTL. Côté voiture, c'est à lire ce matin dans le journal du dimanche l'interview du directeur général du groupe Renault. Renault qui va créer de la valeur en France selon Luca De Meo. Ça pourrait représenter 8 milliards d'euros par an. Voilà ce que dit le patron de Renault grâce à un pôle de production de voitures électriques développé dans le nord de la France et des activités de pointe à créer pour les véhicules notamment à hydrogène. C'était un verdict de procès très attendu, celui des policiers brûlés à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Un mois et demi d'audience à huis clos. 13 jeunes accusés d'avoir attaqué et brûlé avec des cocktails Molotov des membres des forces de l'ordre. C'était en 2016. Verdict tombé au cœur de la nuit. Tout à l'heure, Valentin Boisset, ça a été très mouvementé.
Oui, une telle tension que la présidente de la cour a dû s'extraire de la salle et la police intervenir, main sur les gazeuses qui n'ont finalement pas été utilisées. Quelques secondes plus tôt, lors de l'énoncé du verdict, c'est dans le box des accusés qu'une bagarre éclate. Certains frappent les agents qui les surveillent juste derrière eux. Les policiers tentent de les maîtriser. Les vitres de plexiglas du box tremblent. Puis dans la salle, des proches s'en mêlent. Certaines familles en viennent aux mains, les unes envers les autres. Thibaut de Montbrial, l'avocat d'une policière grièvement blessée en 2016, est alors à quelques mètres du box.
Nous venons d'assister à un naufrage judiciaire. Une bagarre générale a éclaté. Certains accusés qui pourtant venaient d'être acquittés ont tenté, de ce que j'ai vu, d'en agresser un autre. On pris à partie également les gendarmes dans une scène d'une violence que je n'ai jamais vue en 25 ans dans une cour d'assises.
6 semaines de procès à huis clos, 14 heures de délibération, mais le calme ne revient pas. La séance est donc interrompue avant même la fin de l'énoncé du verdict.
Et donc au final, Valentin, ce verdict moins lourd que lors du premier acte.
Oui, globalement des peines plus légères qu'en première instance, 8 acquittements. Et pour les 5 condamnés, 6 à 18 temps de prison. Alors à la sortie, les avocats de la défense étaient plutôt satisfaits. Maître Mogé-Poliac, qui défendait un acquitté et soulagé, elle parle même d'un démenti total de l'enquête dans ce qu'elle qualifie de l'une des plus grandes erreurs judiciaires de ces 10 dernières années. Du côté des parties civiles, les mines étaient fermées, résignées à la sortie. Thibaut de Montbrial défendait Jenny, la policière, grièvement blessée en 2016. Il parle de honte face à ce verdict et de l'effondrement de sa cliente lorsqu'il lui a annoncé la nouvelle, car au-delà des 8 acquittés, les peines de prison ont aussi baissé pour les 5 condamnés par rapport à la première instance. Franck-Laurent Liénard, autre avocat des parties civiles, parle lui d'un très mauvais message envoyé à la police nationale.
Les policiers que nous représentons, on les a brûlés une première fois et maintenant on leur crache au visage.
Le récit RTL, Valentin Boisset. Dans le journal du dimanche ce matin, la ministre déléguée à la citoyenneté annonce la tenue d'états généraux de la laïcité, des tables rondes, des conférences, des groupes de réflexion. Marlène Schiappa souhaite une grande consultation auprès des jeunes sur ce dossier clivant. Un statu quo pour Emmanuel Macron, la cote de popularité du président stable au mois d'avril, 37% de Français satisfaits de son action, selon selon le sondage IFOP de ce dimanche. Le virus, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation est repassé hier sous la barre des 5900, 189 morts supplémentaires dans nos hôpitaux, alors que ce samedi donnait le coup d'envoi à la vaccination de professionnels prioritaires. Enseignants, policiers, pompiers de plus de 55 ans, ça n'a pas eu le succès escompté dans les Alpes-Maritimes. Le vaccinodrome de Nice, qui devait rester ouvert tout le week-end, a fermé en milieu de journée, faute de candidats. Il y avait 4000 doses d'AstraZeneca et seulement 58 personnes qui se sont présentées. La France qui instaure une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, du Chili, d'Argentine et du Brésil. Les liaisons aériennes avec le Brésil vont reprendre, mais il faudra des tests négatifs et donc un isolement, les policiers et les gendarmes pouvant effectuer des contrôles au domicile des personnes concernées. Le Brésil où la situation est catastrophique, Jean-Noël Hardy en témoigne, il est français, il habite Sao Paulo.
Au début, c'est très abstrait, parce que, ah oui, il y a des morts. Et puis, quand c'est des gens que vous connaissez, et qui, d'un seul coup, en 15 jours, disparaissent, malgré tout, j'ai l'impression que plein de gens ne se rendent pas trop compte. Notre président, Bolsonaro, dit que c'est quelque chose de pas sérieux, que c'est une petite grippe, que c'est rien du tout. On voit des gens qui ne tiennent pas compte du tout de rien du tout. Il y a même des fêtes clandestines. Bolsonaro, par son exemple, a été extrêmement nocif. Quand on voit ces courbes qui montent vertigineusement, on se dit, bah, que va-t-il se passer? Oui, on est inquiet. Oui, on est inquiet vraiment.
Inquiétude au Brésil, donc, avec ce Français. Sachez qu'en Tunisie, face à la multiplication des cas, on ferme les écoles et la circulation des transports en commun et des voitures est désormais interdite à partir de 19h. Ils espéraient de l'aide, les producteurs de fruits, les viticulteurs aux exploitations ravagées par le gel les deux premières semaines du mois d'avril. Ils ont reçu hier la visite du Premier ministre dans l'Aude, dans l'Hérault, dans les Pyrénées. Jean Castex leur a promis 1 milliard d'euros, notamment via un fonds de solidarité exceptionnel. Un gros chèque, mais est-ce que ce sera suffisant? Question posée par Vincent Serrano à Bruno Darnaud. Il est président de l'AOP Pêche et Abricot.
C'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle rapide. Donc on peut se satisfaire déjà de l'intervention du Premier ministre et de l'annonce de cet après-midi. Maintenant, il va falloir juger dans le détail des mesures, parce qu'il en a annoncé énormément, et il va falloir calibrer ces mesures. Et je vais dire, le diable se cache dans les détails. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément, c'est qu'il a ouvert un fonds. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de savoir si ce fonds est suffisant. Quand on commence à voir l'ampleur des choses, on rappelle qu'il y a de gros dégâts chez les agriculteurs, mais il y a aussi de gros dégâts dans les entreprises de Laval, enfin, tous ceux qui commercialisent les produits agricoles. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure. Bien malin, qui peut savoir si le milliard est suffisant? Mais ça j'ai peur, malheureusement, que ça ne suffise pas. Et si ça ne suffit pas, il faut absolument que ce fonds soit un fonds ouvert.
Propos recueillis donc pour RTL par Vincent Serrano. Il est 7h07, bon réveil tout le monde, vous restez bien là. Dans un instant, la suite du journal, direction le Royaume-Uni.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
À 7h09, la suite du journal sur RTL. Émotion, recueillement, le Royaume-Uni et la reine Elisabeth II ont dit adieu au prince Philippe hier lors de funérailles restreintes en raison du Covid. Cérémonie à Windsor se transmise dans le monde entier avec des temps forts et notamment une photo qui inonde les journaux britanniques et les réseaux sociaux, c'est celle de la Queen. Marie Billon, vous êtes sur place, vous étiez sur place hier pour RTL.
Cette image de la reine toute de noir vêtue et seule assise sur le banc de la chapelle, loin des autres membres de sa famille, car aucun ne faisait partie de sa bulle sociale, seul donc pour dire adieu à l'homme qui a partagé sa vie pendant plus de 73 ans, ça a beaucoup touché les Britanniques.
J'aurais tellement aimé la prendre dans mes bras. Si je pouvais me faire embaucher comme bouffon de la reine, je ferais de mon mieux pour la faire rire. C'est dur aujourd'hui parce qu'on a perdu un peu comme un roi.
L'autre photo qui restera gravée dans la rétine des Britanniques, c'est celle des deux frères, les princes William et Harry, qui n'ont pas marché côte à côte lors de la procession dans la chorégraphie officielle, mais qui, une fois la messe terminée, se sont retrouvés presque naturellement, on dirait, et ont discuté.
Oui, c'est très bon signe. Vous voyez, la vie nous réserve beaucoup de choses. Peut-être que cet événement va aider un tout petit peu de les rassembler.
C'est le grand espoir des Britanniques que Harry, venu des États-Unis pour les funérailles de son grand-père, en profite pour se réconcilier avec son frère et avec son père.
Merci Marie. Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. En bref, le monde s'inquiète pour la santé d'Alexei Navalny, l'opposant de Poutine. Malade et en grève de la faim dans sa prison, ses médecins exigent de pouvoir le voir, jugeant qu'il risque un arrêt cardiaque à tout moment. Joe Biden a estimé que la situation est totalement incroyable. injuste. Il aurait eu 107 ans très bientôt. Il était l'avant-dernier héros du commandant Kieffer, commando Kieffer, ce bataillon de Français ayant participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Une poignée de braves dans l'armada de liberté. Hubert Faure est donc décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Emmanuel Macron lui exprime la reconnaissance de la nation. Hubert Faure qui a raconté il y a quelques années cette page d'histoire quand le lieutenant de vaisseau Philippe Kieffer les avait menés au combat.
Alors il nous a réunis tous et il nous a dit, voilà, en anglais naturellement, demain matin nous allons à la conquête de la France, libérer la France. Il s'est tourné du côté des Français, il a dit à mes camarades français, je dis, demain matin les Boches, on les aura.
Hubert Faure disparu, il ne reste donc plus qu'un seul survivant de ce commando, c'est Léon Gauthier, âgé de 98 ans. Les sports et le football, 33e journée de Ligue 1 avec la bataille pour les places européennes. Rennes est 7e au classement après son succès à Angers, hier 3-0. Des Bretons juste derrière Marseille, qui l'a emporté dans les ultimes secondes contre Lorient 3-2. Aujourd'hui, Lens sera à Brest à 15h, Monaco à Bordeaux à 17h05 et Lyon sur la pelouse de Nantes ce soir à vivre en direct dans RTL Foot dès 20h. C'est le PSG qui va ouvrir le bal à 13h tout à l'heure dans son stade contre Saint-Etienne. Un succès et les Parisiens reviendraient à un point du leader Lille. Quant aux Verts, ils viseront l'exploit alors que Serge Puyot en parle de plus en plus ces derniers jours de la vente de ce club de légende.
Pour Claude Puel, le manager général des Verts, ce n'est pas la vente annoncée du club qui va perturber ses joueurs avant d'affronter le PSG.
Sur le fond, ça change strictement rien, comme pas mal de clubs. On est un club qui est impacté financièrement. Ma mission, notre mission, c'est de continuer ce projet, c'est de le développer, c'est d'asseoir pour la suite tous ces jeunes joueurs qui feront le futur, je l'espère, de l'ASS.
Et les Stéphanois ne viendront pas en victime expiatoire au Parc des Princes.
C'est un match un petit peu prestige à Paris. On aime bien ce genre de match, en sachant qu'on a toujours un petit peu derrière la tête de prendre 3 points. On est concentré, on est bien. On peut être et on voudrait être quelque part les arbitres du prochain champion. On joue à Paris, on jouera à Lille. Donc voilà, on doit avoir cette ambition.
Les Verts, qui au match aller avaient déjà contraint les Parisiens à concéder le match nul au stade Geoffroy Guichard.
Serge Puyot en Espagne, Barcelone a survolé hier la finale de la Coupe du Roi 4-0 face à Bilbao. Un titre pour Griezmann, buteur, et Messi, auteur d'un doublé. La Ligue des champions féminine ce dimanche avec le quart de finale retour entre les filles de Lyon et celle du PSG. L'OL s'était imposé au match aller à Paris 1-0. Les filles du rugby au top de leur forme. Nos Bleus ont surclassé les Irlandaises hier 56-15 et elles disputeront le week-end prochain la grande finale du tournoi des Six Nations face aux Anglaises. Un Anglais en pole position du Grand Prix de Formule 1 d'Italie, c'est Lewis Hamilton, 99e pole. Départ à 15h, le champion du monde aura dans ses rétroviseurs les Red Bull de Perez et Verstappen. Le Français Pierre Gasly s'élancera lui en 5e position. L'appli RTL pour toute l'actualité de ce dimanche, n'hésitez pas à aller vous connecter.